Par derrière. Parce que par devant, on ne voit que la façade. Parce que de côté, on ne voit qu'une partie. Parce que d'en haut, on ne perçoit pas tous les détails. Et parce que par derrière, on a toujours des surprises. Par derrière, pour aller à la rencontre de ces anonymes qui participent, de près ou de loin, à notre vie de tous les jours. Par derrière, pour les mettre, eux, en avant. Je suis Lise Pressac, et pour ce podcast, je tends mon micro à des femmes et des hommes aux métiers peu ou mal connus et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici. Enfin, par derrière. Vous avez forcément un film ou une série préférée. Vous connaissez sans doute le nom du réalisateur ou de la réalisatrice. Mais connaissez-vous le nom du ou de la scénariste ? Derrière cette fiction se cache peut-être Johanna. Un jour, j'ai découvert que cette amie d'amis était aussi l'amie d'une autre amie chère et qu'on aurait pu ne jamais le découvrir. La vie, quoi. Je la retrouve un mardi matin pluvieux de novembre. Mardi matin, 10h, sous la pluie, à vélo. J'ai rendez-vous avec Johanna.
Ça va, toi, ouais, depuis le temps ?
Oui.
Je te présente mon chat.
Bah, salut, le chat. Mais est-ce que je peux la caresser ?
Oui.
Non.
Tu vas, penche-toi déjà, tu vas voir.
Mais moi, ça me fait un peu flipper qu'elle me renifle le visage.
Non,
d'accord, alors viens,
penche.
D'accord, c'est le truc de bienvenue,
ouais,
très bien.
Et après, bah, si tu la touches, au pire, c'est juste qu'elle va te...
Elle va s'en aller.
Elle n'a pas les griffes, hein.
Ah, ok.
Je te dis, j'aime pas.
Donc, ok.
Est-ce que je peux te servir un café ?
Ah, volontiers, ouais. Johanna, tu fais quoi dans la vie ?
Alors, je suis scénariste, principalement pour la télévision.
Est-ce qu'il y a une particularité ? Est-ce qu'on est scénariste de façon générale ou est-ce qu'on a une spécificité ?
On peut être scénariste dans ce qu'on appelle plusieurs répertoires, c'est-à-dire que pour le coup, moi, je travaille par exemple beaucoup en animation, donc ça, c'est le dessin animé. Je travaille aussi pour ce qu'on appelle un peu à tort, parce qu'on dit la fiction française, voilà, en sachant que l'animation, c'est de la fiction aussi. Et après, il y a aussi le cinéma. Donc, c'est pas tant, comment dire, qu'il y a des spécificités, c'est plus, voilà, des parcours de vie qu'on va travailler pour un support voilà, plutôt qu'un autre, mais par contre ça reste le même métier avec les mêmes compétences.
Et est-ce que du coup c'est très segmenté, parce que je sais par exemple en journaliste quand on est en radio on connaît peut-être moins la télé, est-ce que quand on fait de l'animation on est moins pris au sérieux quand il y a de la fiction justement qui arrive et qui dit ah oui mais elle fait de l'animation, est-ce qu'il y a une sorte de, aussi de hiérarchie des répertoires ou est-ce que ça tu le sens pas trop et c'est assez pour eux, tu peux passer de l'un à l'autre?
Alors, tu mets le doigt sur quelque chose de très juste. Il y a effectivement, on va dire, une sorte de forme de hiérarchisation entre ces fameux répertoires. Alors, ça vient tout simplement aussi de... Il y a quelque chose de très culturel en France, parce que forcément, c'est le cinéma français, etc. Donc déjà, la télévision a longtemps été considérée, on va dire, comme quelque chose peut-être de moins noble. Et après, au sein de la télévision, effectivement, si tu travailles voilà, pour ce qu'on appelle la case de prime time, donc en gros le programme du soir en fiction française, t'es pas tout à fait considéré de la même façon que quand tu travailles pour les enfants sur du dessin animé. Après, les dernières années, c'est en train de changer, notamment avec les plateformes. C'est-à-dire maintenant, déjà, il y a c'est ce qui se passe aux États-Unis aussi, il y a une grande capillarité, on va dire, voilà, beaucoup de réalisateurs cinéma qui maintenant veulent travailler sur des séries. On a aussi, voilà, des gens d'animation, en fait, qui vont peut-être travailler sur des quotidiennes en fiction. Donc ça a commencé, on va dire, à être un peu plus poreux sur certains types de projets, notamment parce que, par exemple, les scénaristes d'animation sont très techniques. En fait, l'animation française, c'est une vraie industrie. Donc, c'est des scénaristes qui, en gros, travaillent tout le temps, dialoguent tout le temps, alors sur des projets plus petits en termes de volume, en termes de format. Mais voilà, ils savent vraiment répondre à un cahier des charges. Donc maintenant, les producteurs de fiction se rendent compte aussi qu'il y a une certaine, on va dire, il y a des compétences, en fait, qui vont avec. Et voilà, donc c'est un peu moins, on va dire, le cas aujourd'hui. C'est un peu plus, voilà, simple, on va dire, de passer d'un métier à l'autre.
Toi, tu as commencé dans l'animation. Enfin, ça a été quoi ton premier scénario pour qui et pour quel format ?
Alors effectivement, moi j'ai commencé en animation, alors c'était vraiment le hasard des choses. En fait, moi à la base, j'ai fait une formation de journalisme. Ensuite, je suis partie une année à l'étranger, à Los Angeles, parce que je voulais apprendre l'anglais. Et c'était un peu par blague, en fait, je me suis inscrite dans des cours de scénario là-bas, parce que c'est un peu, voilà, Los Angeles, c'est la capitale, pardon, un peu du cinéma, voilà. Et il y a un peu cette blague qui dit, voilà, quand à Los Angeles, voilà, la moitié des habitants sont acteurs et les autres souhaitent l'être. Bon, c'est la même chose pour les scénaristes, pour les réalisateurs, etc. Donc ça me paraissait un peu aller de soi, de me dire tiens, si j'essayais. Et en fait, j'ai vraiment pris goût à ça et je me suis dit tiens, en fait, c'est sympa aussi le côté, ce que j'aimais dans le journalisme, mais plutôt avec le côté créatif, on va dire. Et après, en fait, moi, j'ai un peu bifurqué dans les médias, c'est-à-dire que j'ai un peu laissé tomber le journalisme et je suis allée plutôt vers l'audiovisuel plus général. Donc j'ai travaillé côté production, j'ai travaillé aussi côté diffuseur, j'ai travaillé pour TF1 notamment. Et c'est vraiment chez TF1 en fait que j'ai découvert qu'il y avait une section animation, parce que je connaissais pas trop l'animation française à ce moment-là. Et c'est vraiment le hasard de la vie qui a fait qu'à un moment, quand j'ai quitté TF1, un ami qui travaillait à la jeunesse en fait chez TF1 m'a dit « Ah tiens, en ce moment, ils cherchent un coordinateur d'écriture dans une boîte de production. » Et il m'a dit « Bah, c'est une série TF1, tu connais bien notre ligne éditoriale. Ils cherchent quelqu'un qui parle anglais et allemand. » C'était mon cas, parce que c'était une série, une coproduction internationale. Et c'était Maya l'abeille en fait, donc la nouvelle version. Et du coup, j'ai commencé comme ça en tant qu'ordinatrice d'écriture. Et du coup, je me suis confrontée à l'écriture, puisque c'était moi qui gérais, on va dire, le planning des scénarios de cette série d'animation. Et petit à petit, en fait, je me suis dit, mais en fait, j'aimerais bien écrire. Et donc, je me suis lancée là-dessus, en fait.
Bienvenue à Chaville-sur-Ronron. C'est là qu'habitent Harry et Splat. Un duo inséparable, pas comme les autres. Car dans un monde de matous, pas facile d'être...
Une souris ! Oh, mineur comme mon père !
Mais Splat trouve toujours une solution pour protéger son ami Harry.
Coordinatrice d'écriture, ça veut dire quoi? Que tu as une sorte de pool d'auteurs et que tu dois gérer les arrivées des scripts et tout ça? Enfin, comment ça fonctionne exactement?
Alors, le plus souvent, ce qu'on appelle un directeur d'écriture. Là, j'étais un peu à cheval entre de la direction d'écriture et de la coordination. La direction d'écriture, effectivement, en gros, c'est toi qui es garant de la ligne éditoriale, on va dire, du projet, parce qu'en animation, tu vas avoir 72 épisodes, par exemple, à sortir. Donc, tu vas, avec la production, recruter un certain nombre de scénaristes qui vont, du coup, écrire les épisodes. Et toi, tu es, on va dire, le garant pour assurer une cohérence entre tous ces épisodes, s'ils sont feuilletonnants, et une cohérence tout court, si, voilà, c'est des épisodes bouclés. Donc, tu fais le lien, en fait, entre ton pool de scénaristes, effectivement, et le réalisateur, la production, tes interlocuteurs, là en l'occurrence c'était une coproduction TF1, ZDF et il y avait une chaîne aussi australienne. Voilà, donc après c'est lire des textes, faire des retours, lancer des nouveaux pitchs, trouver des nouvelles idées, accompagner les auteurs, jusqu'à ce que l'épisode soit fabriqué.
Et ça veut dire que toi, techniquement, quand t'es scénariste et qu'on t'appelle pour un projet, tu signes à l'épisode, comment ça se traduit en termes d'engagement justement et de certitude que tu vas avoir suffisamment de travail?
Alors, c'est simple, il n'y a aucune certitude, déjà. Il y a plusieurs cas de figure, en fait. On va dire que moi, soit je fais de la commande, effectivement, soit j'essaye de vendre mes propres projets, en sachant quand même qu'aujourd'hui, la plus grosse partie du travail, ça reste de la commande. Aujourd'hui, initier un projet, ça veut dire prendre du temps pour développer quelque chose, donc du temps qui n'est pas rémunéré. Ça veut dire faire des démarches pour trouver un producteur, ça veut dire réussir à vendre ce projet à un producteur, ensuite le développer avec ce producteur. Puis le producteur doit le vendre à une chaîne de télévision. Donc, ça, c'est mon cas en ce moment, par exemple. J'ai un projet que j'ai dû initier il y a pile un an, un autre que j'ai initié là en avril. Bon, là, en ce moment, les deux projets sont chez le diffuseur, mais avec aucune certitude que ce diffuseur va donner son feu vert. Quand on vient me chercher pour de la commande, par exemple en animation, ça veut dire qu'un producteur... ou un directeur d'écriture va m'appeler pour me dire « voilà, je démarre la direction d'écriture, on démarre tel projet, on cherche des scénaristes, est-ce que ça t'intéresse ?» Là, on va dire, en fonction du projet, il y a déjà un peu plus de certitude parce que, bon, si tout se passe bien, je peux me dire « bon, j'ai peut-être réussi à faire 1, 2, 3, 4 épisodes, peut-être plus, mais ça va vraiment dépendre de à quel moment j'arrive sur le projet, combien d'épisodes il reste à écrire. »
Salut, moi c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister ?
Et puis ça va dépendre aussi de ma capacité à intégrer, on va dire, l'univers de cette série, parce qu'en fait on va me donner des documents de travail, donc il va falloir que j'intègre un univers, des personnages, et que je propose des pitchs. Donc une fois que je propose mes pitchs, c'est pareil, ils sont pas sûrs d'être pris. Donc après, voilà, en fonction de comment est organisée la série, peut-être que je vais proposer 10 pitchs et il y en a que 2 qui vont être pris. Après, il faut les développer, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment un métier où on a du mal à savoir de quoi sera fait demain.
J'ai l'impression que tu as quitté le journalisme, qui est quand même un endroit de l'insécurité totale, pour un truc encore plus insécure. Je me suis dit, tiens, j'ai trouvé plus insécure que nous. Parce qu'en termes d'investissement et de charge de travail, en gros, non rémunérée, ça, c'est quand même conséquent. Et j'imagine, en contrepartie, le chat veut rentrer. C'est pas grave.
Il y a une question que j'aime bien poser. C'est, est-ce que tu sais combien est payé un scénariste ?
Tu veux quoi, un ratio horaire ?
Non, en fait, la réponse, elle est simple, c'est 0. Donc là, tu vas me dire, ah bon, c'est étonnant, etc. C'est parce qu'en fait, on n'est pas rémunéré pour notre travail. Donc moi, je ne suis pas concrètement payée pour mon travail. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que je vais écrire un texte, d'accord, où j'ai un contrat. Avec des échéances. Donc des échéances, ça veut dire par exemple, là, par exemple, je vous donne l'exemple d'un épisode de dessin animé, je vais d'abord devoir valider un pitch, ensuite je vais devoir déployer ce pitch en séquencier, donc ça c'est ou en synopsis, enfin ça dépend un peu du projet, et ce synopsis après le déployer en dialogué, d'accord ? Donc déjà à chaque étape, c'est une étape d'évaluation, c'est-à-dire qu'à chaque étape, le producteur peut dire « Non, ça ne me convient plus, tu sors. » Donc déjà, il y a un espèce de... Tu vois, le rapport déjà au temps, c'est t'es dans une évaluation permanente de ton travail. Bon, ces échéances, elles sont payées en droit d'auteur, mais en fait, ce sont des avances. Donc en gros, mon épisode, je ne suis pas rémunérée pour mon travail, c'est-à-dire que contrairement à une pige, je pense que c'est ton cas, quand tu piges, bon, tu as, on va dire, un volume de travail, il est rémunéré tant, mais c'est de l'argent qui t'appartient. T'es payé pour ton travail. Moi, cet argent, en fait, c'est une dette. Donc, en fait, je contracte une dette auprès du producteur. Donc, quand je dis zéro, c'est parce qu'en fait, le producteur va me dire, par exemple, OK, pour un épisode de 13 minutes, je te donne 3000 euros d'avance. Donc, j'ai 3000 euros. Et cette somme, en fait, je vais la rembourser 2 fois. Je vais la rembourser une première fois en travaillant. Et ensuite, je vais la rembourser une deuxième fois parce qu'une fois que mon épisode sera transformé en œuvre et qu'elle sera diffusée, elle va générer de l'argent, par exemple en merchandising. Et tous les ans, je vais recevoir un petit papier de mon producteur qui va me dire « Bon, bah, ton épisode qui a été vendu dans 86 pays dans le monde et qui a généré 3 millions d'euros, comme tu as 0,018%, en fait, je te dois 36 euros, mais comme je t'ai déjà donné 3 000 euros il y a 4 ans, tu ne me dois plus que 2700. Bon, je ne vais pas faire le 3000 moins 36, je suis nulle en maths, c'est pour ça que je suis scénariste. Mais en gros, voilà, c'est-à-dire que c'est une avance. Donc en fait, si tu veux, moi, ce qui me permet de vivre aujourd'hui, ce n'est pas les rémunérations que je touche au moment où je signe des contrats, au moment où j'écris, ce n'est pas dans ma phase travail. Aujourd'hui, j'arrive à vivre dans mon métier parce que je touche ce qu'on appelle des droits de diffusion. C'est-à-dire qu'une fois que cet épisode ou cette œuvre, enfin voilà, j'ai fait aussi un téléfilm de fiction sur Arte que j'ai coécrit, quand ce téléfilm est diffusé, en fait, je vais toucher des droits d'auteur parce que Arte et ou France Télévisions pour mes œuvres d'animation ou TF1 vont verser de l'argent à ce qu'on appelle un organisme de collecte qui s'appelle la SACD, donc c'est l'équivalent de la SACEM en musique, et qui va me reverser des droits d'exploitation en fait. Ce qui veut dire qu'il faut quand même 2, 3, 4 ans entre le moment où tu commences à écrire et le moment où ton œuvre existe pour que cette œuvre génère des droits d'exploitation. Et donc c'est vraiment quand tu commences à toucher des droits d'exploitation, parce que tu commences à avoir un catalogue d'œuvres, c'est un peu l'équivalent de devenir rentier en fait, c'est-à-dire que tu génères une sorte de patrimoine qui ensuite est exploité et en fait ça va générer de l'argent. Mais ce qui veut dire que si tu n'es pas fils d'eux, si tu n'as pas un compagnon qui paye ou une compagne qui paye ton loyer, si tu n'as pas déjà eu un métier avant ou si tu n'as pas un métier à côté, il te faut au moins 3, 4, 5 ans avant de toucher ces fameux droits d'exploitation. Donc pendant cette période-là, en fait, tu ne peux pas vivre de ton travail. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui en France, on a un problème de diversité dans la population des scénaristes, parce que bah, si tu viens voilà, d'une classe sociale, on va dire, plus défavorisée, ou si tu viens de banlieue, que tu ne peux pas te payer un logement à Paris pour voilà, avoir ton réseau, ou même faire une école de scénario, etc. En fait, c'est un métier qui n'est pas accessible. En fait, le ticket d'entrée coûte très très cher. Et le fait de ne pas être payé pour notre travail, après, ça engendre, alors là, tout un tas de trucs, c'est tout bête, hein, ça veut dire qu'on n'est pas protégé de tous les risques psychosociaux qui existent, puisqu'on n'a pas d'accès direct sur des moyens qui pourraient nous défendre, que ce soit en termes de harcèlement, que ce soit pour dire, bah là, en fait, j'ai eu un accident de vélo, ou je suis enceinte, ou voilà, donc il y a tout un truc, c'est-à-dire en termes de protection sociale, en termes on n'a pas de Pôle emploi, par exemple.
Le scénariste peut parfois travailler plusieurs années sur un projet sans qu'il voie le jour, et son statut ne le protège pas. Il n'est pas intermittent comme peut l'être un réalisateur qui cumule un contrat de travail et un contrat de droit d'auteur. C'est pour cela que Johanna a cofondé, avec une dizaine d'autres scénaristes, le syndicat des scénaristes, lancé officiellement en mars dernier, après des mois de préparation. Son objectif, défendre les droits des scénaristes lors de la phase de recherche, de création et d'écriture d'une œuvre.
C'est tout bête, hein, c'est que je pense que le réalisateur, c'est plus simple d'encadrer, on va dire, son travail, puisqu'il est physiquement présent, en fait. Il encadre une équipe, etc. Alors que c'est vrai que l'écriture, on se dit, voilà, on ne sait pas trop ce que le scénariste fait, est-ce qu'il est vraiment en train de travailler ou est-ce qu'il fait la sieste, quoi. Bon, moi, je pars du principe que même mes siestes sont des phases de travail, parce qu'on ne peut pas générer, produire tout le temps. C'est-à-dire que si je vais réussir à écrire pendant 4 jours non-stop, c'est parce que pendant 2 semaines, je me suis baladée dans Paris et que mon cerveau a commencé, voilà, à cogiter, c'est peut-être une excuse, hein, mais voilà, je pense que c'est aussi quelque chose de... C'est une histoire de confiance aussi, c'est une histoire de... Voilà, de... Et en vrai, on a des délais, on a des échéances, donc il y a un moment, la question principale, c'est est-ce que je rends mon travail ? Et il n'y a personne d'autre... Enfin, qui de mieux que les scénaristes pour savoir combien de temps leur prend telle ou telle étape de travail, en fait. Donc voilà, pour moi, c'est une question... Elle n'est pas si compliquée à régler, en réalité.
Pourquoi tu fais ce métier, Johanna ?
Bonne question. Je pense que... Alors, pour le coup, c'est un peu le hasard de la vie, parce que je fais pas partie des gens, je me suis pas un jour réveillée en me disant « je rêve d'être scénariste ». Je crois que je ne savais même pas que ce métier existait, à vrai dire, alors que j'étais une énorme consommatrice, tu vois, de télévision, etc. Mais peut-être parce que ce métier, d'ailleurs, n'est jamais vraiment mis en lumière. C'est-à-dire que je me suis jamais posé la question de... Voilà, je savais vaguement qu'aux États-Unis, il y avait des gens qui écrivaient, bon, il y avait des réalisateurs, etc. Par contre, j'ai toujours été, je pense, passionnée de récits et de... Voilà, j'ai énormément lu, énormément regardé de films, etc. Et j'étais plus attirée par le journalisme, du coup, à la base. J'ai pas été journaliste très longtemps, pour la simple et bonne raison que je me suis vite rendu compte que j'étais pas du tout faite pour tout ce qui était actu, quotidienne, etc. Ça allait beaucoup trop vite pour moi. Moi, j'aime bien creuser les sujets, j'aime bien rencontrer des gens. Voilà, je me faisais systématiquement engueuler par mon rédacteur-en-chef à l'époque de France Bleu parce que j'arrivais à la bourre avec mon enregistrement d'interview parce que je passais 3 heures au café parce que les gens me racontaient leur vie alors que j'y allais normalement pour 3 questions, tu vois, et qu'il fallait vite revenir avec la matière pour faire le montage pour le JT du soir, etc. Et donc, à un moment, je me suis dit, bon, j'ai plutôt allé dans le côté documentaire parce que j'avais envie, je me suis dit, bon, tu vois, ou émission d'investigation, enfin, ce truc un peu de...
Un truc au long cours, quoi.
Voilà, exactement, au long cours. Et c'est vraiment, je te disais, c'est mon année aux États-Unis qui fait que j'ai un peu découvert vraiment ce métier et que je me suis essayée, voilà, à l'écriture. Et en fait, je me suis dit, c'est assez chouette parce que ça permet finalement de faire ce que j'adore, c'est-à-dire de... Tout est inspiration, c'est-à-dire que tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, d'ailleurs les copains, attention à ce que vous dites, mais il y a un peu ce côté, voilà, tout devient matière à imaginer, à créer, etc. Mais en plus avec ce côté où il n'y a pas ce côté très sérieux, et moi j'avais toujours peur, tu sais, de sans vous voir, hein, de transformer la parole des gens ou de pas être à la hauteur de ce qu'ils me confient, etc. Là, j'ai envie de te dire, je peux faire ce que je veux avec cette matière. Donc déjà, il y a une forme de liberté totale qui me va bien et qui fait que j'arrive à dormir la nuit, tu vois, où je me dis pas, oh mon Dieu, mais est-ce que en faisant mon montage sur cette interview, est-ce que c'est pas un peu tronqué la réalité, etc. Ça, c'était quelque chose qui m'angoissait beaucoup, de pas être à la hauteur, on va dire, d'un point de vue déontologique, hein, de la parole que les gens me confiaient. Je crois aussi, moi je suis convaincue que les porteurs d'histoire, quels qu'ils soient, ont un rôle majeur dans la société, c'est-à-dire que oui, c'est du divertissement. Mais je pense que si on se raconte des histoires au coin du feu depuis la nuit des temps, c'est aussi que c'est un facteur de sociabilisation, c'est une façon de toucher les masses, c'est une façon de créer de l'empathie aussi, qui est tout aussi importante en fait que le côté très factuel, on va dire, de on arrive avec des informations, etc. C'est-à-dire à un moment, comment tu fais à travers la fiction, et d'autant plus pour les enfants, pour générer des situations où ton spectateur va peut-être à un moment comprendre quelque chose parce qu'il se met à la place d'eux ou qu'il va être embarqué dans une histoire et sans le vouloir être touché, tu vois, par un combat, une thématique, etc. Moi, j'ai écrit aussi des co-écrits et co-créé des programmes plus engagés, on va dire, de façon frontale. C'est le cas, par exemple, de Moulfried, qui est un unitaire animation, voilà, qui parle de honte sociale, de harcèlement, etc.
Dis-moi, c'est quoi la régate ?
Bah, une régate, quoi, une course de bateau. C'est l'événement de l'année ici. Tous les enfants participent. Enfin, pas moi, apparemment.
Ah, mais elle est dure, la course ?
Moi, je suis débutante, mais peut-être que si je m'entraîne...
Oh, on pourrait être coéquipières !
Et une autre fiction Arte qui s'appelle Les Héritières, qui parle aussi de, voilà, de l'éducation nationale, qui parle de transfuge, de classe, etc. Donc là, on est quand même dans des sujets, on va dire, lourds, qui, enfin lourds, des sujets sociétaux, on va dire, avec peut-être une démarche qui est plus frontale.
Votre nouvel établissement est prestigieux. Votre place ici, vous la devez à votre travail. Fruit de la méritocratie basée sur la valeur de l'effort.
Quitter la banlieue pour réussir.
Oui !
Sans renier qui on est.
Tu t'accroches, hein ?
Sans oublier d'où on vient.
J'attends de vous l'engagement total et l'excellence.
Mais ça n'a pas toujours besoin d'être ce cas-là. C'est-à-dire que on peut aussi, à travers, voilà, du dessin animé plutôt rigolo, voilà, mettre des valeurs féministes, mettre des vrais messages, en fait. Donc, moi, je crois que j'aime bien me dire qu'à travers la fiction, quelle qu'elle soit, et quel que soit le format, le genre ou la cible à laquelle tu t'adresses, tu peux à la fois... toucher les gens émotionnellement, leur créer aussi peut-être une petite bulle de répit, parce que je pense qu'on en a tous besoin, et en même temps, voilà, passer des messages forts. Voilà, donc je pense que c'est un peu ça pourquoi je continue à me battre et à essayer de faire ce métier.
En fait, moi, je me dis qu'il n'y a pas non plus complètement de hasard. Tu me dis que tu es allée à Los Angeles pour apprendre l'anglais. Tu aurais très bien pu aller à Londres, en fait. Donc, tu vois, quelque part, l'attrait pour les États-Unis, je ne sais pas si c'était inconscient, mais tu t'es quand même retrouvée au cœur du réacteur sans le vouloir, parce qu'apprendre l'anglais, t'as pas besoin d'aller si loin.
Non, mais alors, pour le coup, c'était vraiment un raté de mon université de l'époque, parce que je m'étais inscrite pour partir au Canada ou en Australie, mais vraiment parce que grands espaces, j'avais envie de grands espaces. Et ils ont foiré mon inscription, en fait. Et il se trouve que quelqu'un s'est désisté pour le programme en Californie et que j'ai pris la place. Mais c'était vraiment le hasard, pour le coup.
Mais il n'y a pas de hasard. C'est comme ça que je me suis retrouvée en Erasmus en Turquie. Il n'y a pas de hasard. Dans le cas particulier, l'animation pour enfants, est-ce qu'on se donne aussi une sorte de responsabilité ? Tu parlais tout à l'heure de thèmes qu'on met, etc. Moi, je découvre ça avec ma fille de 5 ans. Il y a des trucs que je trouve complètement abêtissants. Il y a des trucs que je trouve... Ah tiens, je vois le petit truc, le message qu'il y a derrière, même si c'est répété 25 fois, etc. Où il y a une sorte de... soit morale, soit même dans la répartition des personnages, où tu sens qu'il y a eu un sens de l'égalité, de la parité. Enfin, est-ce que tu vois aussi une forme de responsabilité, peut-être que le mot il est un peu trop fort, mais d'engagement, justement, quand tu écris pour les enfants et que tu dis que... Enfin, ils vont être devant, ça se trouve, ils vont être seuls devant en plus, donc pas avec une explication d'un adulte. Enfin, est-ce que tu penses à ça quand tu traites de ce répertoire-là particulièrement ?
Complètement. Alors, pour le coup, moi, le mot responsabilité ne me fait pas peur. C'est pas le cas de tout le monde, hein, et moi, je pense que c'est un choix vraiment personnel. Moi, en tout cas, c'est trop important pour pas se poser la question. On va dire que quand j'ai démarré il y a une dizaine d'années, bon, il y avait des choses qui vraiment passaient entre... Enfin, tu vois, c'était des trucs à la con, c'était les personnages féminins avaient forcément des petites jupes. Il y avait vraiment des choses qui étaient, tu vois, en termes de stéréotypes de genre, etc. C'est moins le cas aujourd'hui, parce que je pense quand même que d'un point de vue déjà global, même mondial, tu vois, on se pose beaucoup plus de questions. Je pense que ce soit les producteurs, les diffuseurs, il y a quand même aussi une exigence là-dessus, voilà, qui s'est, on va dire, ça s'est professionnalisé aussi, donc dans le sens où on essaye de faire les choses bien. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même une question que tout le monde se pose, j'espère. En tout cas, dans les grandes lignes, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ratés. Il peut y avoir des ratés, parce que voilà, c'est une chaîne de production et que parfois tu mets une intention, mais que voilà, une fois que ça passe en storyboard ou encore plus en fiction, parce qu'autant en animation, comme tout est tellement calibré, tu as 80 personnes derrière qui vont concrètement fabriquer l'épisode, donc je pense qu'il y a aussi un respect du scénario qui est peut-être plus grand. En fiction, bon, bah, une fois que ton scénario part en tournage, nous on n'est pas présents sur le tournage, on n'est pas dans la salle de montage, on n'est pas là au casting, on n'est pas là, voilà, donc... Ça peut aussi arriver qu'un réalisateur, d'un coup, décide de faire carrément autre chose ou tu vas te retrouver, par exemple, avec une scène un peu gratuite au lit de ton héroïne avec ton héros parce que le réal, il a envie de mettre en lumière, n'est-ce pas, son actrice principale. Enfin, et ça, c'est des choses qui t'échappent complètement. Donc ça peut être assez énervant, assez frustrant. Voilà, je cite vraiment un exemple. Moi, ça ne m'est pas arrivé hein, de me retrouver avec une scène comme ça dans un scénario. Donc, dans une scène non voulu, mais je sais que ça c'est déjà arrivé, voilà, des copains de dire oh là là, tu découvres ton programme et tu reconnais pas ce que t'as écrit et qu'il y a plein de choses qui ont été changées, etc. Mais on en revient à ça, c'est-à-dire que pour l'instant, nous on n'est pas impliqués jusqu'au bout en fait, parce que contrairement aux Américains qui sont vraiment rémunérés pour notre travail, on en revient toujours à ça, hein, qui sont impliqués d'un bout à l'autre, surtout quand c'est une création originale. Nous, une fois que le scénario est validé, on disparaît. Donc il y a personne pour garantir aussi que nos intentions sont respectées.
Est-ce que c'est une fierté aussi, une fois, de voir son œuvre, parce que c'est une œuvre qui est diffusée, et de voir, par exemple, quelqu'un qui t'en parle en disant bah, « c'est moi qui l'ai écrite », ou alors un enfant que tu connais qui dit « ah, bah, j'ai adoré ce dessin animé », mais tu dis bah, « en fait, c'est moi qui l'ai écrit derrière ». Est-ce que ça fait partie aussi des satisfactions?
Moi, c'est plus ce côté où tu sens que tu as touché des gens ou que tu as ému des gens. Ça me parle beaucoup, effectivement. Où tu dis, ah bon, ben, ce truc-là, il n'est peut-être pas nécessaire ou essentiel, mais il a sa place. Et c'est ma petite pierre à l'édifice où tu dis, bon, ben, s'il y a au moins des gens qui se sont reconnus ou à qui ça a parlé ou que ça a même peut-être juste interrogé sur certaines thématiques, etc., je me dis, bon, ben, j'ai fait ma petite part. Voilà. Pour le dire assez humblement.
Tu fais quoi du reste de ta vie?
Alors, déjà, ça me prend beaucoup de temps, hein, parce que je ne suis même pas sûre que l'écriture soit mon activité principale, parce que comme je te disais tout à l'heure, c'est...
C'est la sieste et les balades dans Paris.
Pas seulement. Il y a effectivement des petits temps de la chair. Non, c'est juste aussi parce qu'on passe beaucoup de temps à voir des gens. Enfin, en gros, tu es ton propre... Enfin, tu as un agent, mais tu dois aussi défendre tes projets... T'es un peu responsable commercial, tu fais beaucoup, beaucoup de choses autour. Et puis, tu passes aussi beaucoup de temps aussi à demander à te faire payer, par exemple, à relancer les gentils producteurs.
On a beaucoup de points communs et ouais. Fais des déj et des cafés aussi.
C'est ça, exactement. Voilà. Et après, bah, moi, j'ai quand même une activité syndicale qui me prend quand même un peu de temps. Et ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie d'un équilibre global. Je pense que c'est un peu mon caractère, mais c'est aussi une façon de pas cultiver l'aigreur et la colère. Je le vois comme quelque chose de me dire, voilà, je sais pas si moi je vais profiter de ces combats-là, c'est pas forcément l'idée. Je crois beaucoup au fameux One Generation Change, c'est-à-dire que je vois ce qui déconne et je me dis, bah, c'est à moi et aux gens en ce moment de faire poids pour espérer qu'un jour ça change et que peut-être les scénaristes de demain soient payés pour leur travail et invités en festival et présents sur le tournage pour vérifier la cohérence éditoriale de leur projet. Donc pour moi, c'est quelque chose aussi qui fait partie un peu d'une aventure collective qui me fait du bien parce que du coup, je passe beaucoup de temps avec des gens très intelligents, bienveillants et qui sont aussi pas juste dans leur coin. Tu vois, voilà, ça permet aussi un peu de casser peut-être le côté solitaire du métier. Moi, je coécris beaucoup. Je suis pas quelqu'un de solitaire, donc je passe rarement une journée seule chez moi, enfermée derrière mon ordinateur. Et après, c'est déjà pas mal. Ça me prend beaucoup de temps.
Tu veux faire quoi plus tard ?
Ouh, la bonne question. Élever des chèvres en Ardèche. Non, je saurais pas du tout faire ça. C'est une bonne question. Alors, c'est une question, effectivement, que malheureusement, je pense que je vais devoir me poser parce que, encore une fois, comme je te disais, c'est un métier très incertain. On n'a pas vraiment de carrière dans ce métier-là. C'est-à-dire que tu peux, à un moment de ta carrière, être dans l'eau du panier, être beaucoup sollicité, et puis du jour au lendemain, tomber dans l'oubli complet. Les femmes aussi, surtout. Parce qu'il y a vraiment un espèce de plafond de verre où c'est pas parce que t'as déjà beaucoup d'expérience que tu vas progresser dans tes rémunérations ou que tu vas être sûr de pouvoir travailler beaucoup parce que t'as toujours cette peur de devenir has-been. Peut-être que voilà, tu vas fâcher des gens parce que tu vas leur dire que t'es pas assez correctement payé, etc. et qu'ils vont plus vouloir travailler avec toi derrière. Enfin, il y a tout un tas de choses en tout cas qui peuvent faire que du jour au lendemain tu n'as plus de boulot ou on ne pense plus à toi ou tu n'arrives pas à vendre tes projets parce que juste t'as plus la force de le faire ou les moyens aussi physiques, la maladie, etc. Bref, c'est très incertain et il y a aussi les intelligences artificielles qui arrivent, donc on sait pas trop ce que ça va donner. Donc effectivement, c'est une question que je me pose, mais je n'ai pas la réponse pour l'instant.
Vous venez d'écouter Par Derrière, un podcast de Lise Pressac réalisé par Loïc De Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner. Ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt.